travaille dans une chambre russe avec un lit de plumes, une couverture.
À l'occasion de la présentation de Genèse 2, la grenouille est allée rencontrer le metteur en scène Galine Stoeff au théâtre du Merlan.
Au coussin rempli de plumes d'oie. Aïe, plume et loie. Et bourré dans le coussin avec toutes ses plumes.
Donc vous êtes Galine Stoeff.
Ouais.
C'est
ouais.
Comme ça que vous dites.
Oui, exactement, exactement. C'est pas Galine Stoeff, mais c'est Galine Stoeff. Oui, c'est ça.
Vous êtes née en Bulgarie.
Ouais.
En 1969.
Ouais, c'est ça.
Vous avez 40 ans, presque.
Dans 2 mois.
Ouais. Et donc vous êtes metteur en scène.
Ouais.
Vous avez travaillé notamment donc à Sofia.
Ouais.
Vous avez mis en scène Madame de Sade de Mishima, Le Cercle de Craie Caucasien de Bertolt Brecht ou Arcadia de
ouais.
Stoppard.
Ouais. J'ai mis en scène beaucoup de choses en fait, voilà. Je ne me souviens plus, mais il y en a beaucoup. Oui.
Alors justement, vous avez acquis une stature européenne en travaillant en Slovénie, en Macédoine, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Belgique et en France donc.
Ouais, mais c'était pas un truc vraiment calculé. Je suis tombé comme ça parce que ça a pris du temps de comprendre qu'apparemment j'ai un problème d'être situé et, ou dépendant d'un seul contexte culturel. Et quand j'ai compris ça, je pense que j'ai pas fait suffisamment de psychanalyse pour résoudre ce problème. Alors, je me suis mis de bouger, de changer le contexte très souvent. Et en fait, je pense, ça m'a formé, je me suis construit à travers un constant changement de contexte pour essayer de rester sur les marches plutôt que d'être vraiment lié avec une seule chose. Je pense que je suis un peu comme quelqu'un qui est entre 12 étages dans un ascenseur et qui se sent assez bien dedans.
Coincé dans l'ascenseur.
Ouais. Pas littéralement. Là, je flippe, mais dès que je sens qu'il y a plus de 2 portes ouvertes dans les directions complètement différentes, je peux fonctionner. Sinon, je me sens pas très bien si je passe pour un jeune metteur en scène bulgare, je sais pas, un peu à la mode, ou un metteur en scène qui travaille en Belgique seulement ou en France, ça m'intéresse pas forcément. Mais vraiment de jouer, de traverser les limites, les lignes de séparation sans être puni, ça me passionne. C'est pas jusqu'au camp ils vont me laisser faire tout ça, mais pour l'instant ça va.
Alors bah justement, du coup, ça va amener à ma première question, parce que donc il n'y avait pas vraiment de questions jusqu'à
maintenant. Ouais.
Ça rejoint ce que vous disiez là, je vous ai entendu dire sur France Culture qu'il y avait autant de théâtre que de culture, que justement vous traversiez, vous essayez de passer d'un espace à l'autre, et d'une culture du théâtre aussi à une autre. Ah, le café.
Ouais.
Alors là, moi, je suis un peu... je sais pas, je vais essayer. Hop, merci. Je vais le prendre sans sucre, ça sera plus simple.
Ouais, non, pas de sucre, merci.
Je laisse le plateau en haut avec une tasse.
Merci, c'est gentil.
Ok, merci. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que votre théâtre n'est pas ce qu'on pourrait appeler conventionnel, entre guillemets, classique, quoi. Les personnages n'ont pas forcément d'interaction directe entre eux, ils s'adressent souvent au public. La mise en scène peut être tout à fait statique.
Ça dépend du projet, mais voilà. Là, ici, sur Genèse 2, oui, c'est souvent le cas.
Oxygène aussi,
oui, ouais.
La narration n'est pas forcément continue, il n'y a pas forcément une histoire, une trame narrative.
Oui, mais c'est dans le texte aussi, c'est de l'écriture quand on parle.
Ouais.
Ouais.
Vous mettez en scène Corneille ou...
Ouais.
Viripaef.
Ouais.
Alors, vous pouvez... Qu'est-ce que c'est le théâtre? Voilà, ça, c'est ma première question.
Qu'est-ce que c'est le théâtre? Oh là là. Bah écoutez, si j'ai eu la réponse, peut-être je serais pas là en essayant de produire de théâtre, mais je pense en fait c'est un endroit, un des seuls peut-être qui reste de moins en moins, où on peut se permettre d'établir un rapport ou de communiquer les choses d'une manière beaucoup plus... vous voyez, il y a des fils... comment ça s'appelle en français? Des fils d'électricité.
Oui, avec électrique.
Oui, avec plus et avec moins résistance. Par exemple, l'or, on a appris ça à l'école. Moi, j'étais nul à l'école, mais ça, je me souviens. On nous a expliqué qu'en fait, l'or, c'est... peut transmettre l'électricité avec moins
de résistance.
De résistance. Et alors, c'est un fil avec une qualité beaucoup plus intéressante, quoi. Et là, je crois, en fait, dans le théâtre, si on arrive, là, c'est peut-être le seul endroit aujourd'hui où on peut faire passer le sens ou l'énergie d'une manière en utilisant l'or au lieu d'utiliser, je sais pas, un truc bidon, quoi. Et puisque nous, on a de moins en moins des endroits ou des possibilités vraiment de se communiquer l'un avec l'autre dans notre vie, je crois que en fait, dans le théâtre, on peut se permettre d'établir une telle communication qu'on ne peut pas avoir à la maison, chez soi, en travaillant dans la rue, en regardant au cinéma ou en allant dans un bistrot ou un bar. Et alors là, je crois que c'est un endroit de rencontre où on peut revenir ici et maintenant. Je crois que c'est le seul, en fait, la seule raison légale pour que le théâtre existe, à mon avis.
Il y a quand même, justement... Par contre, même si vous transgressez un certain nombre de règles du théâtre classique, enfin, comme beaucoup de metteurs en scène contemporains, j'imagine, vous gardez la frontière de la scène.
Ouais.
Donc, je ne crois pas que vous ayez mis en scène des spectacles où, par exemple, il n'y a plus de cette distance entre le public et les comédiens. Et là où je voulais en venir, c'était que du coup, cette communication directe dont vous parlez, elle ouais. est quand même à sens unique, c'est quand même... Vous qui nous parlez, et puis nous, on vous écoute, quoi.
Ouais. Mais en fait, moi, je crois que je fais le théâtre d'une manière assez classique, en fait. C'est le fait de faire des... Voilà, d'avoir les comédiens qui s'adressent directement au public, c'est pas du tout un truc nouveau. Au Moyen-Âge, ou comédie dell'arte, ou tout ça, c'était pendant le théâtre de Shakespeare, là, les gens parlaient directement au public. Alors, aussi, bien sûr, il y a cette séparation, parce que dans cette communication, il y a deux parties. Il y a une partie qui a travaillé un peu plus que l'autre, pour montrer quelque chose, et l'autre pour ça, parce que, bon, paye. Pour faire avancer la chose, quoi. Mais en fait, tout ce qui m'intéresse sur le plateau, c'est d'avoir, j'ai dit ça peut-être 1000 fois déjà dans les interviews différentes, d'avoir les gens qui créent une sorte de labyrinthe ou une sorte de structure sur le plateau pour qu'en fait, pour que le vrai spectacle se passe pas sur le plateau, mais dans la tête ou dans le ventre du spectateur. Alors, on travaille sur le plateau pour mettre le spectateur dans une position où il est obligé de faire des choix tout le temps en regardant. Ça veut dire d'être actif, ça veut dire de faire des efforts et en fait de devenir un co-créateur de cette soirée, de ce spectacle aussi. Dans ce sens-là, c'est vrai que j'essaie de pousser un peu les limites pour qu'on arrête de traiter le spectateur tout simplement comme un consommateur qui paye son billet, qui bouffe un McDo ou une salade, une nouvelle cuisine ou je sais pas quoi, et après il se casse. Alors là on essaie de changer un petit peu ce cadre, et je sens qu'en fait que les spectateurs sont beaucoup plus avancés dans ce sens-là que les artistes eux-mêmes. Mais les gens sont prêts, les gens sont ouverts, les gens sont prêts à aller beaucoup plus loin. Et parfois, je me dis qu'en fait, on les doit beaucoup plus et il faut, comment dire...
Mais est-ce qu'ils ne sont pas prêts à aller beaucoup plus loin parce que justement, ils consomment et donc ils sont protégés d'une certaine manière. On n'est pas sur la scène, nous. On peut réfléchir beaucoup et imaginer beaucoup et tout ça, mais quand même, ça reste très, très localisé géographiquement, à peu près là, quoi. Ça bouge pas, ça se déplace pas beaucoup.
Donc oui, dans la tête, mais c'est pour ça, il faut attaquer aussi le ventre, il faut attaquer le cœur, il faut attaquer les endroits dont on parle jamais, de plus en plus maintenant surtout. Il faut attaquer le vide qui est en nous aussi, parce que surtout maintenant qu'on est dans un moment complètement dingue où en fait il y a une grande question de comment dire de pourcentage de la foi, ce qu'on est prêt à investir pour y croire en cette notion de l'argent, cette notion de capital, ou cette notion pour tout ce qui se passe en fait aujourd'hui. Il y a le sens qui est malade ou qui est absent. Et ça veut dire qu'il faut recréer en fait, une constellation qui peut faire, qui peut pousser le monde, bouger et pas être dans complètement coincé.
Créer du sens en fait.
Oh, oui. Ouais. Ou chercher.
Mais ensemble, ou un sens commun, collectif, ou un sens pour chacun. Parce que vous-même, dans ce que j'ai vu de votre théâtre, vous ne nous donnez pas vraiment une direction précise. En gros, vous nous donnez plein d'éléments, une constellation, comme vous disiez, puis après, démerdez-vous, quoi.
Oui, exactement. Je crois en ça, parce que je crois qu'il faut qu'on assume notre responsabilité, chacun. Et qu'on arrête de penser que quelqu'un pour nous va prendre des décisions, des grandes lignes et tout ça, et nous, on va continuer de bouffer et s'acheter des fringues et croire qu'on est heureux. Alors, c'est de la merde, c'est pas vrai.
Ça nous amène à ma deuxième question. Je repensais hier, quand j'écrivais mes questions, justement, je repensais à Oxygène.
Vous êtes bien préparé, je vois. Vous...
Parce que j'adore votre travail et que j'ai plein de questions, des vraies questions.
Oh, merci.
Et oui, donc dans Oxygène, il était beaucoup question d'événements internationaux, des grands bouleversements,
ouais,
par lesquels on est traversé finalement,
ouais,
en tant qu'individu. Hier, donc jeudi 29 janvier, la représentation de Genèse 2 a été annulée.
Ouais.
Pour des raisons sociales et politiques, donc.
Ouais.
Voilà ma deuxième question. C'est quoi la politique ? Est-ce que ça a un rapport avec le théâtre ? Est-ce que le théâtre a un rapport avec la politique ?
Oui, complètement, parce que les principes sont les mêmes. Et il y a toujours cette notion de séduction, cette notion de... Comment dire ? Achetez-moi, votez pour moi, etc. Mais... La différence, c'est que dans le théâtre, on peut se permettre les choses qu'on ne peut pas se permettre dans la vie, normalement.
Par exemple ?
On peut partir dans une délire qui est... Si on l'applique dans la vie, ça sera la catastrophe. Mais ici, en fait, c'est on peut se permettre de transgresser, de casser les limites, d'ouvrir les portes. Dans la politique, en fait, les principes théâtrales sont pareils, mais je pense que la qualité est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. Et en fait, c'est ça ce qui m'agace
pourquoi,
le plus.
Pourquoi
je sais pas, il n'y a pas de classe.
Pas de la politique.
Moi, ah non, moi.
Un peu plus de classe, justement, par exemple.
Non. Moi, je suis nul. Moi, peut-être la seule qualité que j'ai, c'est au moins de savoir où je peux toucher, où il ne faut pas que j'y aille. Et là, pour moi, c'est très clair, en fait, que j'ai pas les qualités pour ça. Mais le problème, c'est que je vois des gens qui insistent sur le fait qu'ils ont plein de qualités pour ça, mais finalement, pas du tout.
Ouais, voilà.
Et là, tu te dis, mais en fait, apparemment, ils n'arrivent pas du tout à gérer le truc. Et peut-être, il faut radicalement changer cette constellation de rapports aussi. Je pense en fait ils sont assez touchants maintenant, les politiques, parce qu'ils apparaissent à la télé, ils disent qu'ils gèrent la situation, mais j'ai l'impression qu'ils savent rien, qu'ils sont complètement dans le vide, ils ont peur, et là, au bout d'un moment, tu dis, mais ça marche pas, alors il faut qu'on arrive à trouver une autre chose qui va être, je sais pas, complètement surprenant pour nous tous. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça va donner, mais ce qui est clair que, voilà, à tous ces gars-là en constat, je peux dire, les gars, c'est pas ça ce qu'il faut faire.
Mais alors, est-ce que vous pensez qu'il y a des messages dans votre théâtre, dans votre... Qu'est-ce que vous nous donnez ? Est-ce que c'est... Parce qu'il y a quelque chose de politique, mais j'aurais du mal à définir ce que c'est, puisque ça échappe sans arrêt. C'est cette question du sens, là, qui...
Oui, ça échappe sans arrêt, mais par définition, en fait, le fait de présenter quelque chose dans un groupe d'individus, ça devient déjà politique, parce que ça... Comment dire ? Ça impose un message où ça attire l'attention. L'intention, mais politique, je sais pas si je peux le dire en amont, c'est pense avec ta propre tête, quoi, prends tes décisions, n'attends plus que quelqu'un d'autre qui est peut-être plus intelligent que toi va résoudre tes propres problèmes, parce que c'est pas vrai, ça, voilà. Mais après, c'est aussi de rappeler chacun à ses propres responsabilités, autant comme citoyen, pas seulement comme citoyen, comme être humain aussi. C'est important. On se traite souvent comme des citoyens, comme des artistes, je sais pas quoi, mais on oublie très souvent la notion très simple et basique d'être humain. Et ça, c'est un truc assez mystérieux.
Bon, ce serait une quatrième question. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain ? Mais je vais déjà poser la troisième.
Ouais.
Donc à cause de la question 2, là, qui était cette question de la politique et de la vie sociale, j'ai pas pu voir Jeunesse 2 hier, puisque la séance
était annulée,
mais j'aimerais bien quand même qu'on en parle un petit peu.
Parce que d'hier ?
Non, ouais, d'hier d'ailleurs, ouais. Je sais pas. Qu'est-ce que vous avez fait hier d'ailleurs, tiens ?
Ben, on s'est promené, on a marché un tout petit peu avec les gens, mais puisque moi, en fait, personnellement, j'ai l'horreur des foules, quand il y a beaucoup de gens dans un endroit, je panique un peu.
C'est plutôt drôle parce que, enfin, c'est ce qui se passe au théâtre, quoi.
Oui, mais ici, moi, je reste toujours derrière, alors je peux même m'échapper très vite, je suis toujours à côté d'une porte. Mais oui, après, on est resté au soleil parce que, voilà, moi, je descends de Bruxelles et là, c'est le paradis, il y a du soleil, voilà. Mais c'était une journée assez tranquille, avec beaucoup d'énergie positive en fait. Et voilà, ça me fait plaisir de voir tous ces gens qui se ressemblent tous, je crois par des raisons complètement différentes, mais quand même ils arrivent, même tous qui sont votés pour Sarkozy par exemple, ils sont dans la rue, alors tu dis coucou, salut, ça va.
C'est peut-être pas ceux-là, en fait. C'est peut-être pas ceux qui ont voté Sarkozy.
Bah, je pense qu'ils étaient aussi dans la rue, parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde.
Ça dépend selon la police, non. Il y avait très peu de monde. Il y avait 20 000 personnes, selon la police.
Oui, mais attendez, moi je viens d'un pays...
Selon les syndicats, 200 000, alors.
Oui, mais moi je viens d'un pays communiste où j'ai appris qu'il ne faut pas croire à la police ni les syndicats complètement. Alors, il faut... Comment dire ? Il faut aller sentir l'ambiance toi-même, mais non, je crois qu'il y a toujours une énergie. Je sais pas si c'est une énergie sociale, mais les gens sont là et les gens existent pour faire avancer le sens, même si tout est fait pour nous pousser à l'oublier, le truc de consommation et tout ça. Tu vois, on oublie, on s'endorme, on regarde TF1, mais c'est affreux ce qu'ils font avec les spectateurs. Ils te tapent dessus avec des pubs et avec des conneries. Et te faire croire que c'est ça la vie. Et c'est profondément triste si tu arrives à y croire vraiment. Et là, hier, j'ai vu qu'en fait, les gens sont coupés les délais, ils sont sortis dans la rue. Alors, il y a toujours l'espoir. Je sais pas dans quelle direction on va y aller. Je pense que ça sera rock'n'roll. Mais au moins, il y a quelque chose qui se passe. Tu vois, et je trouve ça important. Voilà.
C'était pas ça ma question, donc, ouais. Mais ça m'intéressait quand même. Donc je n'ai pas vu Jeunesse 2,
ouais.
Mais je voudrais quand même qu'on en parle.
Okay.
Est-ce que ce serait juste si je disais que donc, c'est une pièce d'Ivan Viripaev et de...
Antonina Velikanova.
Voilà.
Ouais.
Alors, déjà, qui c'est ?
C'est une femme schizophrène qui est enfermée dans un hôpital psychiatrique à Moscou, quelque part.
D'accord.
Ce qu'on m'a dit.
Bon.
Je n'ai jamais rencontré. Mais c'est une femme qui n'a rien à voir avec le théâtre.
Ouais.
Elle était un prof de mathématiques à l'époque, et elle est schizophrène, et pendant un de ses délires, elle dit que, voilà, qu'elle a compris le sens secret de cette phrase de Shakespeare, tout le monde est un théâtre et nous, on est des acteurs. Voilà. Elle dit, j'ai compris le sens secret dans cette phrase, et pour ça, elle a décidé d'écrire une pièce de théâtre. Elle a envoyé ça à Ivan. Ivan a reçu un manuscrit qui était un peu délirant, voilà, sans structure, sans rien, et il a essayé de le restructurer un peu, au moins ce qu'il dit, lui. Et voilà, et nous on a reçu en fait une version de texte, et en fait ce qu'on va jouer, c'est pas vraiment un spectacle, c'est un essai de monter sur scène une pièce qui est immontable, si je peux dire ça. Voilà, c'est la soirée, c'est ça en fait, c'est un essai constant, sans cesse de monter ce texte.
Alors ce texte met en présence Dieu, ça ?
Oui, il y a un personnage.
Qui nie sa propre existence, si j'ai bien compris ?
Oui, 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 il y a un Dieu qui est... Oui, il y a le Dieu là, sur le plateau, oui, 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 oui. Alors venez voir Dieu,
ça vaut le coup,
il est au théâtre Merlan, ce soir et demain, voilà, c'est important.
Donc il y a Dieu,
ouais.
Il y a Jean.
Il y a un prophète Jean qui je crois que c'est un prophète bidon en fait.
Ouais, j'ai cherché.
Oui, oui, non, il n'existe pas. Je pense qu'il est inventé vraiment par Antonina Velikanova et Ivan Viripaev.
C'est un apôtre Jean. Mais...
Oui, oui. Non, ça c'est un autre Jean qui en fait qui débarque juste pour divertir les spectateurs entre les scènes, parce que les scènes sont très tragiques, et pour qu'ils se fatiguent pas trop, il faut. Comme dans le théâtre classique en Grèce ou pendant la Renaissance en Angleterre, il y avait toujours un truc pour divertir les spectateurs, parce que sinon les gens vont partir, oui, oui. Ouais, ils vont réclamer ses frics. Et nous, on n'est pas dans une position pour se permettre de perdre du fric. Hein.
Donc,
il faut être clair.
Un petit bouffon, un petit
voilà.
Prophète, quoi.
Ouais, ouais, okay. Ouais. Il y a un prophète qui chante des choses un peu limites, voilà. Mais bon, c'est drôle. Ouais.
Il y a un troisième personnage, ou une troisième personne, je ne sais pas, qui serait la femme de Lot. Si
oui, la femme de Lot. Oui, pour tout le monde qui n'a pas lu le Bible, ouais. la Bible, c'est en fait c'est une bonne femme qui n'a pas son propre nom dans la Bible. Ce qui est assez intéressant, parce que là, même les servants ont ses noms. Et là, c'est la femme de Lot. C'est la femme de Lot. Il y a un bonhomme qui s'appelle Lot, qui était très gentil, alors Dieu laissait décider le sauver avant de détruire Sodome et Gomorre. Et alors il est parti, il a envoyé ses anges pour lui dire, écoute, tu quittes la ville parce que Dieu va détruire la ville. Et il prend sa femme, ses deux filles.
Sodome et Gomorre, donc censé être des lieux, des villes de perdition, de perversion.
Exactement, exactement. Et là, en fait, les seuls qui étaient gentils là-bas, c'était Lot, sa femme et ses filles. Les anges lui a dit, il faut surtout pas se retourner pour regarder derrière toi la destruction. Et là, ils sont partis, mais la femme de Lot était apparemment trop curieuse. Alors, elle s'est retournée, elle est transformée en une colonne de sel. Voilà, et ça, c'est son histoire dans la Bible. Et là, notre pièce, en fait, commence au moment quand elle devient une colonne de sel. Et là, on peut voir, en fait, qu'est-ce qui se passe après. Encore une promesse. Peut-être je vais pas tenir ce soir.
Donc, cette pièce, elle parle de Dieu,
ouais.
De la religion, de la folie.
Ouais.
C'est ça ? Est-ce qu'il y a un lien ?
Pas entre... de la religion, de la foi, plutôt.
La foi.
Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ou le sens.
Oui, c'est ça, on est ouais. toujours dans cette histoire de rechercher le petit quelque chose qui nous manque là.
Ouais, exactement, exactement, ouais.
Est-ce que justement la folie et le théâtre sont pas des lieux vachement intéressants pour aller chercher Dieu, beaucoup plus que la religion justement
Oui.
Enfin, le quelque chose en question qui nous manquerait.
Oui, en fait, quand il s'agit de la notion de quelque chose de secret, sacré. Dès qu'on tombe de la version d'une institution qui va gérer ça, je pense on s'éloigne de plus en plus de ça. Et puisque le théâtre est quand même une institution, mais assez flexible, il y a des gens dingues qui travaillent dedans, alors ça garde cette possibilité de déviation dans le bon sens. Là, je crois qu'on parle de Dieu ou de quelque chose de sacré, ou c'est que des mots, parce que finalement, je crois qu'on parle de sens, on parle de cette possibilité d'être humain, chez les êtres humains, de recréer le sens et d'y aller plus loin. Tu peux appeler ça différemment, tu vois, mais il y a toujours cette notion d'avancer et de remplir le vide qui est autour de toi et en toi. Et je pense pas qu'il faut opposer en fait l'église ou la religion au théâtre, mais je crois que le théâtre c'est un endroit beaucoup plus libre, beaucoup plus intéressant de toute façon.
On peut faire tout ce qu'on veut au théâtre.
Ouais.
Tant que c'est sur la scène en fait.
Oui, et dans la tête des spectateurs. Parce qu'en fait, le théâtre travaille aussi avec le moment présent. Il n'y a pas avant, il n'y a pas après. Ça te renvoie toujours au moment ici et maintenant. Et là, il y a des moments, en fait, j'ai senti parfois, et je ne parle pas de mes spectacles, mais en général au théâtre, il y a des moments quand il y a un échange tellement intense entre les gens que ça devient tellement beau qu'il n'y a plus de mots de mettre dessus. Et là, t'es prêt en fait de justifier tout le reste, tu vois, la recherche, les souffrances, le fait de rester sans argent, de galérer, de ramer et tout ça. Mais il y a des moments comme ça où tu arrives vraiment à toucher un endroit où tu vois que, en fait, il y a pas de différence entre nous, dans le bon sens, comment dire, que on est tous là. Tout est là, il faut juste le prendre, il faut juste le faire transmettre, il faut le transmettre. Mais c'est des moments très très courts, et là, le moment passe, et un autre moment qui est remplacé, qui le remplace, il faut recommencer le processus de nouveau, chaque fois. En fait, on est condamné de faire ce recherche constamment. Il n'y a pas un moment où tu te dis, on y est, j'y ai arrivé, et tout ça. Et ça c'est profondément tragique, mais en même temps c'est très beau parce que c'est la preuve qu'on est vivant, voilà. Et il faut tout simplement l'assumer. Et le théâtre c'est juste un petit moyen de se rappeler de ça. Ben dans mon cas j'ai pas trouvé un autre, alors je fais ça. Je voulais dire, c'est peut-être aussi c'est pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre. Ça serait bien qu'ils viennent voir Genèse 2 parce que c'est comment dire. C'est consacré, c'est fait avec cette pensée où tous ces gens qui s'emmerdent au théâtre. Mais moi, personnellement, puisque moi j'aime pas regarder le théâtre, ça m'ennuie, ça me rend, la plupart du temps, ça me déprime parce que je sors la salle, je me suis dit, je me dis, c'est exactement ce que tu fais toi, et en fait il faut arrêter tout de suite ça parce que voilà, c'est tu dépenses de l'argent public et il vaut mieux de les investir en quelque chose qui donne beaucoup plus de sens. Mais de toi, faire de théâtre, je sais pas, j'en sais rien. Mais oui, c'est vrai, j'en sais rien. Mais en même temps, de faire de théâtre, de lancer ce processus, de rentrer dedans avec les gens et vraiment d'essayer d'avancer, ça c'est un truc passionnant. parfois, ça me semble beaucoup plus sérieux que la vie elle-même ou que tout ce qu'on veut faire croire que c'est la vie. Voilà. Et cet endroit de déviation, où tu peux te permettre vraiment de rêver, je crois que c'est très important de le préserver parce que c'est très, très éphémère, très fragile.
Aïe, que j'emmène mon homme par le bras, dormir et ignorer le pire. Tantôt il est dessus et tantôt moi, de bougre russe s'amuse sur un lit de plumes russes.
Vous venez de passer une demi-heure avec Galine Stoeff et Marine Richard au Théâtre du Merlan.
Voilà le bonheur, se mesurer par la force à qui crèvera qui. Aïe, la peignée qu'il m'a filée, aïe, qu'il m'en a mis plein la tomate. 100 ans passeront avant que n'oublie le service.